Ça commence.
Il fallait y penser. Tenir sa droite en marche arrière, c'est rester à gauche et c'est aussi, en somme, avoir son avenir derrière soi.
C'est du tarpin sur la planche. Exploration sociale et sonore.
Laissez-moi. Ben, je comprends.
C'est un problème qu'on a anticipé depuis très longtemps, mais la mairie n'a rien fait.
C'est la faute à Patrick Mussi. C'est la faute à tous ces chefs du Parti Socialiste.
Allez, Marcel, on va observer la population française.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est du tarpin sur la planche qui revient pour la suite de son abécédaire marseillais. L'équipe est motivée et renouvelée pour vous proposer toujours plus d'indignation et de surprenantes choses dans vos esgourdes. Ce mois de février est consacré au D, alors D comme...
Sugar daddies.
Diyarbakir.
Des terres kurdes.
Danger.
Des filles d'autorité.
Décalé.
Pour vous en dire un petit peu plus sur ce qui va se passer dans cette émission, des Pragois nous diront ce qu'ils pensent de Marseille au micro de Magdalena. Samia se confrontera à un défi d'autorité. Thomas et Laetitia suivront une rando toxique sur la colline de Manjgari sur laquelle se stockent les bourrouges de Gardanne. Nous irons auprès des Kurdes de Marseille, soucieux pour l'avenir de leurs frères et sœurs du Moyen-Orient. Vous retrouverez tout ça dans un quart d'heure. En attendant, Dr Love s'est engagé depuis des mois sur le sujet des Sugar Daddies. C'est la grosse enquête que l'on vous propose sans plus attendre.
Bienvenue dans Inside le Tarpin. Mécénat aux prostitutions, ce mois-ci, Dr Love nous livre une enquête exclusive sur ce phénomène de société que sont les Sugar Daddies.
Vous connaissiez les barbapapas, voici venir les papas en sucre. Nous allons à la rencontre de ces hommes d'un certain âge qui échangent avec des jeunes filles en fleurs, menu monnaie contre 12 gâteries.
Allô? Ben, j'étais à Marseille là cet après-midi. Ben, j'avais une réunion sur les nuisibles. C'est nuisible. Les nuisibles, je suis agriculteur. Ben, les autres jours, je travaille, j'ai toutes sortes d'activités, et puis voilà.
Oh, 7500 étudiantes françaises sont par exemple inscrites sur ce site internet. Elles y sont surnommées les Sugar Babies et mises en relation avec des hommes plus âgés qui affichent leur fortune, les Sugar Daddies. Ce site ne parle pas de prostitution, mais de relations mutuellement avantageuses et d'aide financière. Il est donc tout à fait légal et d'autant plus dangereux, disent les associations féministes.
Outre-Atlantique, le site américain Seeking Arrangement cartonne 1 million de membres, plus de 7 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, ce genre de plateforme incite-t-elle à la prostitution ?
Non, ce qui m'a amené sur le site, ça a été vraiment par hasard. Je veux dire, je me suis dit, tiens, pourquoi pas hein. Ça fait 3 mois. Non, ben moi j'y suis sur le site, ça fait que moi j'ai quand même discuté avec des personnes. Je veux dire, je sais pas, même toi, t'as eu forcément des personnes qui t'ont sollicité, qui t'ont dit, ben voilà, on va coucher ensemble, je te file 220 euros, puis voilà quoi. Non ?
C'est assez intéressant de voir les typos, par exemple, des sites de rencontres. Souvent, il y a du rose, ou il y a des teintes plus pâles, du gris pâle, du blanc. Bon, là, on est dans du doré et du rouge. Du doré et du rouge, bon, on voit que ça va parler de cul.
Et là où ça fait une différence avec les autres formes de travail sexuel qui sont plus connues du grand public, c'est qu'en général, les clients ne payent pas, ou alors assez rarement, pour un rapport sexuel tarifié. Ils payent pour une relation qui effectivement est sexuelle, érotique, mais une relation aussi prétendument, ou du moins, le croit-il souvent, vraiment affective, un lien personnel.
Ben, compensation, comme je te dis, si on a le feeling, moi je ferai tout pour que je puisse te revoir, tu comprends ? Donc ce que je veux, c'est que tu sois contente de venir me voir et contente de revenir me voir. C'est qu'on aura trouvé le bon compromis, tu comprends ?
Ils payent vraiment pour une relation. Pas juste pour un moment de détente, tu payes pas juste pour un rapport sexuel, donc c'est plus long.
Ben moi je cherche quelqu'un, malgré tout, sur du long terme. Je cherche pas pour, en étant vulgaire, pour tout d'un coup, quoi, voilà.
Parfois ils viennent juste une heure pour effectivement avoir un peu de compagnie, Soit parfois ils veulent passer la journée, l'après-midi, aller dîner, aller au restaurant, aller au théâtre.
D'après certaines inscrites, une sortie au restaurant peut être rémunérée 300 euros et les relations sexuelles ne sont pas exclues.
Sortir avec un sugar daddy procure beaucoup d'avantages. Peut-être vous avez besoin d'aide pour votre loyer, payer vos études ou le crédit de votre auto. Ou peut-être simplement vous avez envie de voyager et de voir le monde avec un vrai gentleman qui non seulement vous offre les plus belles choses, mais aime aussi vous emmener dans les magasins et vous gâter sans limite.
Vous avez envie d'éprouver un petit frisson peut-être ?
Oui. Je suis pas vraiment de revenus, je suis dans une situation assez précaire comme énormément d'étudiants. Et la question s'est rapidement posée parce que c'est soit ça, ce qui est un travail que j'ai choisi, soit par exemple aller travailler au McDonald's où on est exploité, très mal payé, dans des conditions très pénibles. Alors oui, ça peut monter à 2000 par mois par exemple, et après ça peut évidemment être beaucoup plus ou moins, ça dépend. Parce que c'est ça l'avantage en fait, c'est qu'on est très libre, on n'a pas de patron, contrairement à un travail qui peut être considéré comme étant plus classique.
Non, j'ai pas de budget, c'est carrément dit. C'est con. Budget, non. Je peux pas te dire, là je m'arrête, là je commence, là je me... Tu sais ce que je veux te dire? Si on a un feeling ensemble que tu me fais flipper comme un fou, je veux dire, moi ce que je veux c'est te gâter. Tu comprends? Non, ben je veux dire, moi j'ai donné 500 euros toutes les fois qu'on se voyait, et puis voilà. Ça fait une sacrée somme, mais bon, après d'un autre côté, je veux que la personne aussi en face, je veux dire, me prenne pas pour un con, quoi. Tu me suis? Ben, je t'avoue franchement que si on se voit une fois par semaine ou tous les 15 jours, je veux dire, ça fait quand même une sacrée somme, quoi. Si c'est pour te taper tous les Marseillais qui te filent de 100 euros, je veux dire, là, par contre, je suis pas d'accord. Non, je sais pas. Comment te dire? Bon, je vais être franc, direct, net. Je veux dire, je suis quelqu'un de marié. Ben, comment te dire? De toute façon, la démarche, tu la connais. Je veux dire, moi, je cherche une maîtresse, je veux dire. Si c'est pour commencer à te tourner autour, à recouler comme un pan. Voilà, on n'est pas sur un plan de drague quand même, tu me suis? Ben, des sentiments, ben, je veux dire, quel âge tu as? 25 ans, moi j'en ai 50. Relation amoureuse, ça devient compliqué, quoi. Non? Voilà, 50 ans. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy. But if I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine fin and Hattie, I just adore his asking for more, 'cause my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. Yes, I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Da 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 da. So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy, 'cause my daddy, he treats me so well.
Moi, j'aimerais bien savoir ce qui choque. Qu'est-ce qui choque? Est-ce que c'est le fait de lancer un site internet qui est du proxénétisme déguisé? c'est effectivement à réfléchir. Est-ce que ça s'inscrit dans une forme d'ubérisation de la prostitution, c'est-à-dire une plateforme où on met en relation des clients avec des prestataires? Ça, c'est quelque chose qui est effectivement à questionner. Et le problème, c'est que souvent dans la société, c'est la jeune fille qui va se prostituer, qu'on va juger. C'est pas le vieux connard qui a une femme et cinq gamins qui va se payer des prestations sexuelles. C'est pas la personne qui a lancé cette plateforme, c'est la nana qui aura juste fait ça pour se payer son master.
Oh, moi, je suis pas mauvais bourg. Hein. Moi, je cherche pas quelqu'un qui vire à droite ou à gauche. Voilà, c'est tout. Par contre, après, tu me dis, j'ai rencontré un garçon de mon âge, tout ça et tout, je m'entends bien. Voilà, je veux dire, on se voit de temps en temps. Je ne peux pas te l'empêcher, tu me suis. Ça reste quand même quelque chose de volage. Ça reste quelque chose où tu te prends pas la tête. Tu comprends? À quelle heure t'es rentré, à quelle heure tu suis. Voilà, et tu m'as pas lavé les chaussettes, et tu m'as pas fait à manger, quoi. Ah bon, c'est bon, quoi. Non, ben, je veux dire, moi, si c'est pour trouver une escorte, je veux dire, je vais dans un autre site, je veux dire, et je me tape, je prends ça sur catalogue, je me choisis le tour de poitrine, la couleur des yeux, et la longueur des cheveux. Pour le même prix. Même moins cher. Voilà. Et je change toutes les semaines.
On voit bien que certes, il s'agit de s'acheter une compagnie à travers ce site, mais il s'agit quand même de s'acheter une prestation physique. Sinon, on ne demanderait pas à la jeune fille de décrire son cul. Enfin, faut quand même être clair. Bah, y a des tarifs qui sont proposés à chacune de fixer ses tarifs. Mais comme dans n'importe quelle activité prostitutionnelle, et c'est bien légitime, hein, elles ne vont pas faire ça juste pour le plaisir de flatter un vieux. Ça me choque et ça ne me choque pas. C'est juste le reflet d'une société, en fait, ce qu'il y a là-dedans. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, il y a des gens qui vont être hyper choqués parce qu'ils vont dire « Oh là là, mon Dieu, c'est de la prostitution. » Mais c'est valable. Enfin, je ne sais pas, moi, le matin, quand je vais à la sortie de l'école, je vois des dames avec leurs talons qui ne travaillent pas, qui se sont maquées avec des hommes plus vieux et plus riches. C'est aussi un échange économico-sexuel et affectif, c'est de la prostitution domestique, sauf que c'est plus accepté. Là, ça nous fait un peu plus trembler parce que, oh là là, c'est de la prostitution estudiantine.
Bon, en tout cas, c'était super sympa. J'ai bien aimé notre conversation. Allez, ben écoute, gros bisous et à bientôt, Sacha. Ciao. Ciao.
Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour, c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber. Un jour c'est toi qui pleureras. Oui j'ai pleuré mais ce jour-là. Non je ne pleurerai pas. Non je ne pleurerai pas. Je dirai c'est bien fait pour toi. Je dirai ça t'apprendra. Je dirai ça t'apprendra. Laisse tomber les filles. Laisse tomber les filles. Ça te jouera un mauvais tour. Laisse tomber les filles. Laisse tomber les filles. Tu le paieras. Avec un cœur innocent. Tu verras ce que je ressens. Avant qu'il ne soit longtemps. Avant qu'il ne soit longtemps. La chance abandonne celui qui ne sait que laisser les cœurs blessés. Tu n'auras personne pour te consoler. Tu ne leur as pas volé. Laisse tomber les filles. Laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qu'on le sera. Laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleureras. Non, pour te plaindre il n'y aura personne d'autre que toi. Personne d'autre que toi. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là. Tout ce que je te dis là. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là. Tout ce que je te dis là. Alors tu te rappelleras tout ce que je te dis là.
Dans cette enquête spéciale, vous avez peut-être reconnu Ovidie, féministe engagée, chercheuse et réalisatrice de films. Merci à elle, comme à tant d'autres, de faire avancer le débat. On se retrouve le mois prochain pour toujours plus de love dans vos oreilles. Et d'ici là, bisous sucrés, si vous en voulez.
Du tarpin sur la planche.
Sur la planche.
Du tarpin sur la planche. À écouter avec ses oreilles.
Exploration sociale et sonore.
Et sonore.
Salam, je vous souhaite le bonsoir, mon noble ami. Approchez, approchez, venez plus près. Oh, trop près, un peu trop près. Voilà. Bienvenue à Agrabah, cité de la magie noire et de l'enchantement.
Wow, on va arrêter de s'astiquer la lampe. Hein. On est dans cette émission, pas pour vous parler du conte des contes 10 000 et une nuits, ni même les refaire. Du Tarpin sur la planche, je vous emmène tout de suite à la rencontre de Bayram, un Marseillais d'origine kurde, contraint de s'exiler de Diyarbakir, sa ville natale.
Moi, je vivais à Diyarbakir jusqu'à l'âge de 16 ans. Après, je partais en Istanbul parce que pourquoi on n'avait pas de place. Parce qu'ils ont détruit les villages, mes familles étaient villages, ils ont détruit des villages et qu'est-ce qu'on se trouvait en ville ? Eh bien, rien à faire. Bon, on partait en Istanbul, du coup, maintenant, mes frères et sœurs. Moi, j'avais des chances un peu, j'étais un peu grand. Je continue de parler avec ma mère et mon père en kurde, mais mes sœurs, mes frères, ils sont petits, ils ne parlent pas.
Le centre historique de Diyarbakir, principale ville à majorité kurde de Turquie, située à une centaine de kilomètres au nord de la Syrie. Une cité au trésor millénaire classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et aujourd'hui théâtre d'une guerre à huis clos entre les forces turques et la guérilla kurde du PKK.
Quand Istanbul est venu en France, parce que cette période-là, je travaillais dans le bateau, j'étais capitaine de bateau et je devrais que... Les gens que je travaille, des collègues, je travaille avec eux, il faut que je parle pas, je dis pas que je suis kurde, il faut que je me casse, il faut que je mette une masque, mon visage, je vis comme une turque, et ça, ça me saoulait au bout d'un moment. Et une soirée, il y avait un match entre une équipe kurde et une équipe turque, Istanbul, Fenerbahçe et Diyarbakir.
Diyarbakir Spor 1-0 öne geçiyor Murat'ın attığı golle. Murat Duman. Diyarbakir Spor 1, Fenerbahçe 0.
Et ce soir-là, Diyarbakir il a gagné contre le Fenerbahçe 2-1.
Murat Duman'ın golü. Bu sezon 3. golüne imza atıyor Murat.
Et c'est un de capitaine, moi j'étais déjà 4e capitaine, 3e capitaine, il a monté en haut pour me remplacer et minuit. Quand il est rentré, au lieu de dire Allah selamet versin, c'est une façon à dire bonjour à d'autres capitaines avant l'entrée. Et lui, il a dit un mot comme salope kurde, disons, gagner encore.
Selçuk, Selçuk seyredi sol çaprazda. Selçuk ortaya bırakıyor. Celalettin 2-0. Celalettin 2-0. 88. dakika. Aradaki fark 2'ye çıkıyor.
Je retournais, je dis, mais comment tu parles? On ne parle pas comme ça. Quand je dis ça, boum, déjà, il était déjà plein. Il a envie de me frapper, quoi. Il m'a envoyé directement. Parce que, d'ailleurs, moi, je n'ai pas envie de perdre mon travail, mais je savais qu'il y a quelque chose vers moi.
Diyarbakır Spor 2, Fenerbahçe 0, Diyarbakır Atatürk Stadında, büyük sevinç.
Avant aussi, avec quelques mots, c'était déjà, ils ont envie de... Bon, finalement, mon mec, il a envoyé 2-3, et jusqu'à on l'a envoyé, tous les bateaux, ils ont monté en haut, et moi, je commençais à pleurer. Et c'est le premier... Ingénieur, il est venu, il m'a pris, il m'a descendu en bas, il m'a dit « Pourquoi tu pleures ?» Je dis « Parce que j'ai compris qu'autant l'année que je fais études et tout est fini, là, j'ai compris. » J'attendais, boum, le premier capitaine il m'a appelé, Bayram, il m'a dit « Bateau interdit pour toi, dès qu'on arrive Italie, tu te casses, on te envoyait pays, à Turquie, c'est fini. » Et bien, le soir même, je réfléchis, je dis « Qu'est-ce que je fais ?» Qu'est-ce que je fais? Je me préparais. J'ai pris mon passeport. Dès que le bateau est descendu d'Italie, hop, avec 100 dollars, Trieste, et je me finis par Marseille, quoi. Voilà, c'est ma vie de Marseille. Soit ça, soit je retourne en Turquie, commence au zéro, continue mon masque, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire. Mais je me trouvais, bon, j'étais 20 ans, je suis là. Voilà. Mais c'est une façon de fuir, quoi. Ok, je comprends. Après 7 ans, entre 2002 et 2009, je pars aller au Kurdistan. 2009, quand j'ai allé au Kurdistan, de Turquie, j'ai allé à Diyarbakir voir les familles. Et une soirée, j'ai un peu bu, j'avais beaucoup de tension sur moi-même. J'ai envie de crier, je suis kurde, c'est mon pays, quoi. Tu vois, j'ai envie de crier. Par exemple, tu sais, là-bas, je ne peux pas crier. Et d'ailleurs, j'ai essayé, et j'avais un copain à côté de moi, il a fermé mon bouche, il m'a dit, Bayram, tu viens d'Europe, tu veux qu'il te garde tout de suite, et tu es fou, arrête. Et il m'a fermé ma bouche pour que je ne criais pas. Et le même soir, bien sûr que le police, ils ont me pris, ils ont me frappé un petit peu, mais ils ont me lâché. Maintenant, je me sens peut-être plus marseillais, mais je suis originaire kurde. Ça fait 15 ans que je suis à Marseille. Je descends en bas. Si je crie, personne, ils vont me tourner, ils vont me regarder, ils vont dire qu'il est fou, mais ils vont pas faire garde à vue. Ils vont rien faire à moi. Je peux un petit peu vivre plus que je pense que Turquie, mais par contre, c'est mieux rester là-bas et continuer de se battre légalement et politiquement sur place. C'est mieux, bien sûr, c'est mieux. Bon. Voilà.
Se battre, justement. Les Kurdes manifestent régulièrement à Marseille et l'actualité géopolitique intensifie leur mouvement. Au moment où nous enregistrons cette émission, le 23 janvier, l'armée turque vient d'entamer depuis deux jours des bombardements sur la région d'Arfin, dans le nord de la Syrie. Cette ville fait partie du Kurdistan syrien, autrement appelé le Rojava. Les Kurdes y défendent un modèle démocratique indépendant, intégrant l'ensemble des communautés, ce qui n'est pas pour plaire au pouvoir autoritaire d'Erdogan, le président turc. Reportage de la manifestation du 20 janvier à Marseille, qui a rassemblé 300 personnes.
L'une des zones les plus sûres de Syrie, ce qui explique qu'elle abrite autant de réfugiés internes que le nombre de ses habitants. Une offensive de la Turquie sèmerait le chaos dans cette région et provoquerait un nouvel afflux de réfugiés aux portes de l'Europe. Répliquant aux déclarations de guerre d'Erdogan, les forces kurdes du Rojava ont signifié qu'elle était prête à se défendre et à débarrasser le nord de la Syrie du fléau turc. Stop à la référence. Dictatorial expansionniste Erdogan.
Afrin n'est pas seul.
On est là aujourd'hui pour le dictateur Erdogan qui va bombarder Afrin, qui est une ville de Syrie. Il y a 2 millions de Kurdes qui vivent là-bas.
Nous sommes tous Afrin.
Aujourd'hui, on manifeste contre l'État turc qui est en train d'attaquer le canton d'Afrin au Rojava. Et les pays internationaux comme la Russie, les États-Unis, les grandes puissances regardent ça avec les yeux ouverts, en rigolant.
Nous appelons la communauté internationale à se mobiliser avec le peuple kurde, à soutenir le peuple kurde, à s'opposer au régime fasciste et barbare représenté par Erdogan, qui est la Turquie.
On ne veut pas Erdogan qui attaque de ce peuple qui est kurde, qui est là-bas. On voulait demander à l'Europe qui nous aide.
La communauté internationale, si elle reste silencieuse, elle se rendra complice du régime fasciste d'Erdogan. Nous appelons une fois de plus la communauté internationale de s'opposer à Erdogan, de dire non au fascisme, non à l'intervention de l'armée turque en Kurdistan. Vive la solidarité internationale, vive la résistance du peuple kurde.
Les Kurdes qui se battent là-bas, ils sont en train de se battre pour les gens de là-bas, pour ne pas mourir. Et de deux, ils se battent contre les mêmes personnes, contre les mêmes terroristes qui ont fait les attentats de Nice, de Paris, de Bruxelles, à Berlin, à New York. Ils se battent pour ça. C'est ça, se battre pour l'humanité. Aujourd'hui, en Syrie, dans le nord de la Syrie, il n'y a pas que les Kurdes. Ils se battent pour les Arabes, pour les Assyriens, pour les Chrétiens, pour les musulmans. Chez nous, il n'y a pas de religion.
Les Kurdes défendront la ville de Afrin comme ils ont défendu la ville de Kobané. souvenez-vous, le sourire mesquin de ce chien enragé qui est Erdogan devant la télé, sur les écrans de télévision, disant que Kobané allait tomber ce soir ou demain.
Il y a 7 millions de Kurdes qui vivent en Syrie aujourd'hui. Et Erdogan peur aujourd'hui gagner les Kurdes en Syrie. Elle peur peut-être demain et va en Turquie aussi venir. Il y a 20 millions de Kurdes qui vivent en Turquie. Erdogan a peur de ça.
C'est une vraie attaque contre les droits des hommes en fait. Et aujourd'hui Erdogan, ce qu'il est en train d'instaurer, c'est là-bas, c'est la terreur. On voit dans les journaux que la Turquie va bien, non. Tous les médias qui sont actuellement en Turquie, tous les médias d'Erdogan. Pendant un an à peu près, il a réduit plusieurs villes du Kurdistan en ruines. Par exemple, la ville de Cizre, où il y a eu plus de 700 personnes qui sont mortes dans les sous-sols sous-sol des bâtiments. La ville de Şırnak est complètement rasée à moitié. Un quartier très emblématique de Diyarbakır qui s'appelle Sur, elle a été rasée aussi. Ils sont toujours en train de raser, en fait. Et il y a toujours la guerre, quoi, aujourd'hui, au Kurdistan.
En conclusion de ce reportage, nous avons entendu un chant d'hommage aux martyrs kurdes entonné par un vieux monsieur alors que les manifestants entamaient une minute de silence. C'était devant la préfecture de Marseille. Bayram, dont vous avez entendu le témoignage précédemment, est musicien dans un groupe qui s'appelle Sonatolia. Il se produit souvent dans la région. Alors on va fermer cette page kurde avec leur interprétation de Finkrinden Jeseler, un chant traditionnel d'Azerbaïdjan. Vous êtes toujours à l'écoute de la radio et il y a toujours du tarpin sur la planche.
D minuscule. D comme dans le mot D. La lettre D.
Bienvenue dans Ushuaïa sur la planche. Aujourd'hui, Thomas et Laetitia nous emmènent dans les collines enchanteresses de Manjgari à Bouc-Bel-Air. Partez à la découverte d'un paysage méditerranéen somptueux, teinté d'une surprenante couleur rouge. Mais d'où vient cette couleur incroyable ?
D comme danger. Ce rouge est celui des boues qui sont déversées par l'usine d'alumine de Gardanne. Tandis qu'elles s'entassent au fond du parc national des Calanques et dans la garrigue environnante, la mobilisation fait rage depuis la reconduction, le 28 décembre 2016, de l'autorisation de les déverser dans la nature. Depuis cet arrêté, les boues rouges passent à travers des filtres presse, devenant ainsi des soi-disant résidus inertes, dont la toxicité dépasse toujours l'entendement. Le 13, nous étions à un nouvel épisode de cette lutte dont on ne voit pas le bout.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Pourquoi est-ce que vous avez un masque ?
Pour me protéger de la pollution. De la pollution qui émane de ces champs d'épandage de boues rouges par la société Alteo et bien, par bien d'autres sociétés avant elle.
Vous savez quels sont les risques sanitaires ?
Ils sont de plusieurs ordres. Ce sont surtout des particules très fines qui peuvent être soulevées par le vent et aller sur des zones habitées, notamment sur des écoles. On sait que les organismes des enfants ne sont pas formés, qu'ils sont spécialement sensibles aux microparticules. Et par conséquent, ces boues dont on demande la suppression depuis des années et des années sont dangereuses pour la santé. Il y a des solutions techniques qui existent. Péchinet, autrefois c'était le nom de l'usine d'aluminium. Péchinet est installée ici depuis, 70-80 ans. Et, bah, l'usine Alteo, c'est le nouveau nom de l'usine Péchinet qui s'est fait absorber. Ce sont des emplois. Je ne sais pas combien il y a de personnes à l'usine d'Alteo. Je l'ai visité il y a un an et demi. Ce que j'ai constaté, c'est la vétusté des canalisations, des installations qui étaient misérables.
Et après, il y a eu un interview de plusieurs personnes environnantes qui ont dit ben, ce voisin-là, il est mort.
Tiens, c'est là-bas, il est mort. Tiens, lui aussi,
la rue de la mort, comme il l'appelle.
Toutes ces grandes sociétés sont prêtes à tuer. Elles se moquent pas mal des gens. Leur affaire, c'est pas la santé publique. C'est le profit qui est le moteur de toute la vie économique d'aujourd'hui.
On aperçoit les tas de boues rouges et on voit bien que les arbres, malgré que ça a plu pas mal, sont encore rouges. Et donc, si on continuait tranquillement à se promener, on se retrouvait dans les tas d'alumine sans qu'il y ait eu aucune signalisation qui nous dise que c'est dangereux. Et on a constaté, moi je l'ai vu plusieurs fois, des gosses qui faisaient du motocross ou du vélo là-dedans. Quand j'ai repéré, j'ai vu aussi qu'il y avait des traces de chevaux, des crottes de cheval. Donc il y a les cavaliers d'Epona qui sont derrière, ben, ils se promènent et en toute impunité, ils rentrent sur le site qui est dangereux.
Bonjour.
Que vous voyez là, c'est les tuyaux qui ont deux fonctions. C'est eux qui amènent les résidus de bauxite pour être traités par les filtres presse. Et donc les boues rouges, elles arrivent dans les filtres presse, on extrait l'eau et on stocke le résidu solide. L'eau est ensuite réacheminée via des pompes et donc ces canalisations vers l'usine pour resservir et donc sont retraitées. Il y a une partie qui passe par là et l'autre partie qui passe vers la lune. Si vous vous promenez vers le pavillon de chasse du roi René, en amont, il y a un site de réacheminement et on voit les canalisations qui remontent. Notre crainte, c'est que le jour où l'usine ferme, eh bien, ces canalisations ne fonctionnent plus. Les pompes ne fonctionneront plus. Donc tout ce qui arrivera en bas, eh bien, ça continuera à descendre, à savoir dans la nappe phréatique et dans la lune. Le volume, c'est 300 000 tonnes par an via les canalisations, ce qui représente 3 semi-remorques complets par jour. Alors les wagons de chemin de fer que vous voyez, c'est en fait l'acheminement de la bauxite qui vient de Fos. Bauxite qui vient d'Afrique, de Nouvelle-Guinée pour être précis, donc qui est acheminé par bateau, qui est stocké sans aucune précaution à Fos, parce que c'est des gros tas qui qui s'envolent. Il n'y a pas de bâche, il n'y a pas d'aspersion. Donc ils subissent aussi les envolées de poussière. Ils les mettent dans des camions et ça arrive à Gardanne, à l'usine directement.
C'est ça ?
C'est ça, tout à fait.
Et tu habites ici ?
J'ai habité ici, en fait. On a déménagé suite à la découverte de ma maladie, en fait. Mais déjà, avant que je tombe malade, de toute façon, on avait pour projet de déménager de là où on était, à Gardanne, très près de l'usine, dans une résidence qui s'appelle Les Ombrages, qui est derrière la poste de Gardanne et donc qui est assez proche du site. Et en fait, on voulait partir déjà avant que je tombe malade parce qu'en fait, on avait 70 mètres carrés, dans 20 mètres carrés de terrasse. Et ces terrasses, on n'en a jamais profité en 4 ans parce que dès qu'on mettait le nez dehors, ça sentait les odeurs d'émanation de l'usine. Il y avait de la poussière rouge de partout. Alors, sur la terrasse, effectivement, sur les voitures de la résidence sur lesquelles on était garés. L'année où il y a eu la canalisation qui a explosé, où il y a eu un rejet, ben, c'était devant chez nous, devant la résidence. Donc, on a eu les voitures qui ont été inondées de boue rouge. On était très contents. Ça a été la croix et la bannière pour devoir faire nettoyer tout ça malgré le fait que la mairie se soit investie. Voilà. Et donc évidemment, le déclenchement de la maladie, de la leucémie, ça a été évidemment la grosse goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a été le déclencheur définitif de notre volonté de partir de cet endroit. Quoi, voilà. Donc on est retourné, là on habitait avant, à la Bouilladis, on est un petit peu plus tranquille.
Est-ce que tu as porté plainte justement ? Ou est-ce que tu t'es non. douté que c'était à cause des pollutions, des résidus ?
Le problème, c'est que tout le monde s'en doute. Les malades, les médecins, quand on arrive à l'hôpital, les médecins, une des premières choses qu'ils nous demandent, c'était notre mode de vie, est-ce qu'on buvait, fumait, est-ce qu'on pratiquait du sport, est-ce qu'on était stressé et est-ce qu'on était exposé à des polluants ou pas. Donc les médecins eux-mêmes se doutent que ça peut être, que ça peut faire partie des causes. Le problème, c'est que les causes de ce type de maladie-là sont multifactorielles, il y a plusieurs causes. Démontrer que c'est cette cause-là plus qu'une autre, dans quelle proportion, d'un point de vue législatif, c'est un vrai casse-tête. Donc porter plainte, on sait très bien que de toute façon, ça, d'un point de vue judiciaire, ce seront des démarches qui n'aboutiront à rien de toute façon, tant que les connaissances médicales seront en l'état et tant que le système judiciaire aussi sera en l'état. Quoi. À part le traitement de la maladie classique, le protocole classique qui est prévu pour ce type de maladie-là, il n'y a pas eu de recherche particulière de polluants liés au boue rouge, ce genre de choses-là.
Est-ce que personnellement, toi, tu peux lancer ce genre de démarche pour essayer de, avec peut-être d'autres malades, essayer de monter un recours collectif ?
Ben, le problème, c'est qu'il faudrait que d'autres malades se manifestent aussi. Moi, je ne suis pas très au courant de ce genre de choses-là. C'est un peu pour ça que je suis venu ici aujourd'hui, pour me renseigner, voir si effectivement il y avait d'autres cas comme le mien, d'autres personnes comme moi qui peuvent le faire aussi, qui ont le courage de le faire aussi, hein, parce que je dois avouer que d'un point de vue santé, je suis encore en traitement. C'était pas forcément top de me retrouver ici. Mais après, voilà, je voulais participer aussi parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, évidemment. Et puis aussi parce que il y a des tas de malades qui sont peut-être aussi encore en traitement à l'hôpital, qui ne s'en doute peut-être pas aussi par manque de connaissances, par manque d'informations. Donc effectivement, je suis là aussi dans ce but-là, d'essayer de faire en sorte que s'il y a d'autres personnes qui ont vécu ce genre d'expérience-là et qui peuvent se manifester, effectivement, pourquoi pas se réunir auprès d'associations. C'est un peu le but de ma démarche aussi.
Ici, on est devant l'entrée officielle du site. C'est bien, vous voyez bien qu'elle est fermée, clôturée et sécurisée. Ah non, mais c'était une blague, hein, ceux qui n'ont pas vu. Regardez à gauche, il n'y a pas de barrière en fait.
C'est une façade.
Elle est trop polluée. Là, il est malheureux.
Je ne répéterai jamais assez que le premier rapport sur la toxicité a été fait sur les rejets en mer. Et il s'appelle c'est le rapport Cryo-Océan. Du même nom de laboratoire et il date de 1993. Ça, c'est la première chose. Les résultats de ce rapport, en fait, je vais le faire très court, c'est que les boues rouges, même à très très forte dilution, c'est-à-dire que si vous mettez 0,1 g par litre de boue rouge dans un environnement et que vous y plongez soit des oursins, soit des huîtres, vous avez une génotoxicité à plus de 94% environ, quoi. Ça veut dire qu'en fait, vous avez une toxicité qui est reproductible de génération en génération. Les huîtres par exemple n'arrivent pas au stade coquillé, elles ne se forment même plus en termes de coquilles, etc. Donc cet impact sur le vivant, on imagine bien que ça peut avoir des impacts similaires, on va dire, sur l'être humain. Mais celui-ci n'a jamais été encore quantifié. Il n'y a eu aucune étude ni épidémiologique, ni participative, ni quelle qu'elle soit, c'est-à-dire qu'avec une participation citoyenne ou juste des scientifiques, ni une étude véritablement sanitaire digne de ce nom. Ce que je disais juste avant, donc c'était sur la partie liquide. Donc sur la partie solide, si vous voulez, les études qui ont été menées, il y en a eu plusieurs à différentes époques et par différents organismes. Je vais en parler principalement de celles que je connais le mieux. Il y en a eu deux qui ont été diligentées par nos soins en 2014, avec des aides, des financements notamment du groupe ALE, donc du groupe des écologistes au niveau européen. Donc en gros, on a missionné la CRIRAD et Analytica, et on s'est rendu compte, en prenant à la fois de la boxaline et à la fois des boues rouges, que les seuils de toxicité propres à des sols non contaminés n'étaient pas respectés. En fait, on était sur des sols contaminés, en termes de tout ce qui était métaux lourds bien sûr, mais plus particulièrement tout ce qui était titane et chrome. Principalement, on avait des doses qui étaient assez affolantes. Et donc ça, c'était une étude qui était menée par le laboratoire Analytica. Et pour ce qui est de l'étude de la CRIRAD, très rapidement, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais vous pouvez tout retrouver en ligne si vous tapez CRIRAD boxaline et CRIRAD boue rouge. En gros, ils ont prouvé que la radioactivité naturelle renforcée de ces boues rouges et de cette boxaline était à hauteur de 4 fois la radioactivité naturelle du milieu ici. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une radioactivité qui est plus importante liée à la présence de ces déchets. Et l'impact direct de la radiologie, bien sûr, se fait sentir vu les quantités de déchets qui sont stockés. Ça, c'est la première chose. Mais d'autre part, parce que ces déchets génèrent un gaz qui s'appelle du radon. Et donc, l'inhalation de ce gaz a un impact sanitaire certain. Il faudrait pouvoir le quantifier. Personne ne l'a jamais quantifié. Donc, une de nos trois revendications du côté de ZEA, mais c'est une revendication commune aux différentes associations, donc aussi bien au CIQ de Gardanne que à Bouygues-Belleur Environnement, c'est d'obtenir une étude épidémiologique participative pour bien quantifier justement l'impact sanitaire, avoir une photographie, on va dire, justement de la santé des gens sur ce territoire. Et c'est ce qu'on espère faire payer à l'industriel avant qu'il mette la clé sous la porte. Pour vous donner une idée, une étude épidémiologique participative, ça coûte environ du type de celle qui s'est menée à Fos récemment, donc ce type d'étude assez brillante, ça coûte dans les 200 000 euros. Donc il faut trouver des financements auprès d'institutions, comme l'ANSES d'ailleurs, qui peuvent être des financeurs de ce genre de ce genre d'études.
On a fait une partie de cortège, mais il y a du chemin quand même.
L'usine Gardanne, à l'époque ça s'appelait Rio Tinto Alcante. Et on venait livrer ici donc à Manche-Gary, mais on allait aussi livrer à Entre-Saint, donc une décharge. Et là où c'était cocasse, c'est qu'à Entre-Saint, quand on allait livrer, l'entrée principale d'Entre-Saint, il y a des portiques de sécurité qui détectent tout ce qui est de traces d'uranium, tout ça. Et forcément, on ne rentrait pas par là. On y faisait passer par une entrée dérobée, ils avaient fait un trou dans le grillage au fin fond de la décharge, et on rentrait par là. Et après, par contre, on ressortait par l'entrée principale. Forcément, il n'y avait plus de matière, donc ça ne sonnait pas. Donc c'est là où moi j'ai commencé à tiquer. En plus, là où j'étais pas d'accord, c'est qu'on nous avait dit qu'on allait livrer les boues rouges. Donc boues rouges, quand vous êtes enfant, les boues, il n'y a rien de dangereux, quoi. Je veux dire, c'est la boue, c'est la terre. Mais quand je vois qu'il y a ce genre de pratique, on nous fait une formation à l'usine avant de commencer à pouvoir travailler chez eux, qui donc nous habilite, on va dire, entre guillemets, à transporter ces matériels-là, à respecter certaines consignes, tout ça. Donc en fait, le patron, il se décharge sur nous, parce que nous, on devient habilité, et le patron, ça en remet à nous. Donc c'est nous qui devenons professionnels, entre guillemets. Et donc ça, ça ne m'a pas plu du tout. Donc j'en ai référé à mon DRH. Et lui, pendant toute la semaine, c'est un chantier qui devait durer 2 jours et demi, et pendant toute la semaine, on a fait sa rotation. Toute la semaine, je l'ai sollicité pour qu'il vienne sur le chantier pour se rendre compte lui-même que c'était pas conforme, et il n'a pas jugé opportun de venir. Et par chance, à la fin, mais c'est pas pour des raisons écologiques, hein, c'est juste qu'ils avaient un quota de rotation à faire par jour, la société, pour que ce soit rentable pour eux, et comme on ne pouvait pas prétendre à faire sa rotation, du coup, nous, notre semaine d'essai s'arrêtait là. Mais il y a d'autres sociétés de la région de Gardanne qui l'ont continué pendant des années, je pense. Nous, ça a duré qu'une semaine par chance pour ma santé personnelle. Mais voilà quoi.
Au niveau de santé, quelle combinaison vous aviez au niveau de protection? Enfin, vous aviez quelque chose?
À l'époque, dans ma société, il n'y avait pas de porte de pays réglementaire. Donc nous, le jour qu'on est arrivé, on était en débardeur, t-shirt, pas de masque, rien du tout, le casque zéro, machin. Et suite à la formation qu'ils ont fait faire à l'usine de Gardanne, on voyait bien qu'on était hors sujet, quoi. Il y avait un problème là-dessus aussi, quoi.
On est quasi certain, selon nos avocats, de gagner et de stopper et casser ces arrêtés pour la bonne et simple raison que, vu ce qu'on a découvert dans les textes, il y a une jurisprudence qui nous permettra de gagner. Ça ne veut pas dire que le combat est gagné, loin de là.
sachant que cette pollution est déjà là, il va falloir certainement apprendre à vivre avec, que ce soit sur la partie maritime ou que ce soit sur la partie terrestre. On va essayer de limiter la casse. À mon avis, on a 3 ans, pas un de plus pour gagner ce combat. Donc on va essayer de faire quand même une action au pénal, même si dans 3 ans, on n'est pas sûr d'avoir de gros résultats. Une action au pénal, ça coûte beaucoup d'argent, donc il va falloir qu'on trouve des fonds. À chaque fois, une lutte, ça coûte énormément d'argent, donc on va voir comment on peut faire. La meilleure chose, ce serait une mobilisation citoyenne digne de ce nom. Alors bravo à tous ceux qui sont présents ici aujourd'hui, mais on devrait être entre 5 et 10 000, c'est juste pas possible. 30 janvier 2016, on organisait une mobilisation en préfecture et on s'est retrouvé avec 2000 personnes. Il faut impérativement que vous en parliez autour de vous, il faut impérativement que lors des prochaines mobilisations organisées par Bel Air Environnement ou par Nouséa ou par d'autres structures, on soit plusieurs milliers. Tant qu'on n'aura pas un nombre significatif sur le territoire et qu'on n'arrivera pas à instaurer des rapports de force, il ne sert à rien de demander à Hulot une solution. Parce que c'est complètement utopique et illusoire. Nicolas Hulot, bien évidemment qu'il est contre cette pollution, mais il ne peut rien faire. N'oubliez pas dans quel gouvernement il est. N'oubliez pas que quand on a fait la mobilisation en janvier 2016, Macron est venu en personne pour soutenir cette industrie. Donc ne croyez pas une seule seconde que la solution peut venir d'un homme isolé dans un ministère, dans un gouvernement. C'est impossible. Tant qu'il n'y a pas de rapport de force digne de son nom sur le territoire et une action juridique, c'est-à-dire son corollaire, on ne gagnera pas ce combat. Vous ne gagnerez pas ce combat. J'ai eu Hulot ce matin. Je vais le réavoir aujourd'hui au téléphone. Il dit la même chose que je vous dis depuis longtemps en discutant, puisque vous me le demandez personnellement. Il n'y a pas de rapport de force, il ne peut rien gagner. Donc soit il sort du gouvernement et il dit je suis contre les bouts rouges, soit on a un atout au gouvernement, c'est lui, et il faut qu'on se débrouille pour réussir à mettre en place un rapport de force sur le territoire. C'est simple.
Je vous invite à poursuivre notre petite marche.
La mobilisation était le 13 décembre, donc. Tandis que la République est en marche, d'autres agissent pour préserver l'environnement et la santé de ceux qui y vivent. Quand les Verts voient rouge, avant que nous soyons tous traînés dans la gadoue.
Du mois de septembre au mois d'août, faudrait des bottes de caoutchouc pour patauger dans la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue, la gadoue. Une des gouttes d'eau me dégouline dans le dos. Nous pataugeons dans le gadou, la gadou, la gadou, la gadou. Ouh, la gadou, la gadou, vivons un peu sous le ciel gris bleu d'amour et d'eau de pluie. Puis mettons en marche les essuie-glaces et rentrons à Paris, ça nous changera pas d'ici. Nous garderons nos parapluies. Nous retrouverons le gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ouh, la gadou, la gadou, yeah. Il fait un temps abominable, heureusement tu as ton imperméable, mais ça n'empêche pas la gadou, la gadou, la gadou, la gadou, ouh, la gadou.
Oh là là, mais quel bazar! Ça peut plus durer, hein!
Il y a du tarpin sur la planche, vous allez voir. Émission de reportage à écouter avec ses oreilles.
Si ça continue, va falloir que ça s'arrête, hein!
Après avoir crapahuté dans la boue, il est temps de prendre un bain. Samia a tenté d'y exercer son autorité.
Ah!
Non, non, non.
Non, mais non, c'est dégueu.
Non. Par contre, arrêtez de jeter des trucs. Parce que là, vous mettez de l'eau partout. Regardez, il y a de l'eau sur le... Est-ce que t'as écouté ce que je viens de dire, Jade, s'il te plaît? Arrêtez de les jeter. Toi aussi, t'as écouté, Ethan, ce que je t'ai dit?
Ouais.
Ethan, t'as écouté ce que je viens de dire ou pas? J'ai dit que je voulais... Arrêtez de vous jeter des trucs, s'il vous plaît. T'as compris?
Oui. Tu me le lances et moi je te lance.
Non, justement, est-ce que vous pouvez arrêter de vous jeter des trucs?
Oui, pourquoi? Ouais, pourquoi?
Non, tu me le jettes dessus, je serai vraiment pas contente et ce sera fini.
Ouais, et bah, tu peux fermer ta bouche?
Tu fermes ma bouche?
Il allait dire que tu fermes ta gueule, en vrai.
Ça, c'est pas très sympa.
Moi, dans la vie, j'avais deux ennemis. Le vocabulaire et les épinards. Maintenant, j'ai la botte secrète et je vous fuis l'épinard. Merci de rien. Au revoir, messieurs, dames.
Du vocabulaire contre toute attente, les habitants de Prague en ont beaucoup pour décrire Marseille. De retour dans cette terre natale durant la trêve des confiseurs, Magdalena nous envoie leurs impressions sur notre cité phocéenne. Un montage punk et no border pour oreilles affûtées.
Bonjour, j'habite à Prague.
I love Marseille and diversity and love for everyone.
Marseille.
Beaucoup d'oiseaux, des oiseaux sales.
Mistral.
Zamakis. Bouillabaisse.
La bouillabaisse, les fruits de mer, la bonne nourriture.
Un truc que j'aimais vraiment beaucoup. C'est piquant. Erika.
Wine, cheese, and delicious sauces.
Marseille, ma fille.
Football, Olympique, designer.
Équipe intéressante qui a parcouru beaucoup de péripéties. Moi, étant supporter de l'équipe Slavia de Prague, je regrette juste qu'ils n'aient jamais joué ensemble.
Mon ami m'a dit qu'il y a beaucoup de sans domicile fixe.
A slunce svíti z vaku nelien, na samém jihu Francie. Don't wanna go home, just wanna stay here. Whoa, whoa.
It's not refugees, it's not refugees in Marseille. It's actually like immigrants.
Les gens intéressants, qui sont cool. Je dirais une France cool, là où les Français ne sont pas prétentieux.
La plupart des gens disent que c'est dangereux, mais mes parents y sont allés et ils n'ont pas eu peur. Mais en général, ils aiment bien l'Italie comme Naples où ce n'est pas très carré. Et à Marseille, c'est pareil apparemment. Alors, on peut dire que Marseille, c'est le Naples de France.
Franzoska Naples.
Das ist alles, mademoiselle.
Et après, ils aimaient bien le château. Ils ont pris le funiculaire pour aller là-haut.
Il n'y a pas de funiculaire à Marseille.
Bon, je ne sais pas. Ils sont montés à pied, peut-être. Il y a tellement de funiculaires en France. Mon père adore la technique. Alors s'il y a un funiculaire, il le prend. Mais bon, alors à Marseille, il n'y a pas de funiculaire. Bon.
J'imagine une cathédrale, les bateaux, le port, le trafic. Brutal.
On va chanter, mec.
De bon matin, je rencontrais le train. De trois grands roues qui allaient en voyage de bon matin.
Les bars sont ouverts, les gens sont partout sur les rues. Ils boivent, ils s'amusent et c'est très sympa.
Moi, je pense tout de suite à la chanson du groupe Fast Food Orchestra sur Marseille.
Mais c'est Montpellier, non?
C'est vrai? Ok.
Bon, un M dans le sud de la France, Marseille, Montpellier, bon, c'est un peu pareil comme cette musique du fast-food orchestra qui s'intitule ben, Montpellier, et que cet interlocuteur a pensé dédier à l'autre M du sud de la France. Vu de Prague, pourquoi pas? Mais ici, bien ancré, nous connaissons les subtilités de notre cité que nous continuerons de vous faire partager, bien entendu. Nous voici venus à la fin de notre abécédaire marseillais pour ce mois de février en D comme
du tarpin sur la planche.
On remercie chaleureusement Radio BAM et Théo pour la réalisation de cette émission. Retrouvez le reportage sur la balade au milieu des Bouts Rouges en version longue ainsi que tous nos podcasts sur notre page hébergée par les audioblogs d'Arte Radio. Salut les macareux, on vous bise fort et on vous donne rendez-vous en mars pour...
Pour le E. Bon, sur ces bonnes paroles, elle a résisté, prouvé qu'elle existait en jouant du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais elle nous manquera beaucoup.
Ce n'est pas la maladie qui l'a emportée, mais France Gall nous a quittés. En hommage, nous avons ressorti un enregistrement public de 1968 à Berlin, Der Computer Nomadrei.
Sie ist in Paris geboren und wird von den Amerikanern Little French Doll genannt, kleine französische Puppe. Sie hat immerhin schon einen Preis aus Montreux in der Tasche und einen Grand Prix Eurovision. France Gall singt Computer Nummer 3.
Toutes ces grandes sociétés sont prêtes à tuer. Elles se moquent pas mal des gens. Leur affaire, c'est pas la santé publique.
Franzoska Napo.
Et lui, il a dit un mot comme salope kurde, disons, gagner encore.
À soutenir le peuple kurde, à s'opposer au régime fasciste et barbare représenté par Erdogan, qui est la Turquie.
Schwarze Haare, von Beruf Vertreter, Kennzeichen, denn wie heute. Und die Liebe ist garantiert für beide.